Jean-Pierre Murat, L'âme fatale. Narration, Florent Houllier. Perdre un enfant est ce qu'il y a de plus terrible. Mais lorsque cet enfant est assassiné, l'horreur du drame devient impossible à décrire. La chair de sa chair, arrachée, salie, piétinée. Ne reste alors que la douleur, la colère, les questions et un vide abyssal. La seule manière de continuer à vivre, le seul moyen de tenter de se reconstruire est de comprendre ce qui est arrivé. Et si ce n'est d'obtenir réparation, qu'au moins justice soit faite. Nous sommes le 18 décembre 1986, ce jour où Marie a embrassé sa fille pour la dernière fois, ce jour où une partie d'elle est morte, en même temps que Christelle Maïri, 16 ans. Ce jeudi matin, il est 11h lorsque la cloche du collège de la Croix-Menée sonne dans le village du Creusot. Christelle Rhin se souvient. Ce jour du 18 décembre, je croise Christelle au collège à 11h, j'allais en cours de dessin. Elle me dit qu'elle a une dispense de cours de gym à cause d'une blessure à la main et qu'elle rentre chez elle. Habituellement, les deux Christelle rentrent ensemble. Elles habitent les portes voisines du 11 rue des Capucines dans la cité des Charmilles. Ce jour-là, Christelle Maïri semble avoir quitté seule le collège. La veille, son grand-père a eu un très grave accident de voiture. Il a été transporté dans un état critique à l'Hôtel-Dieu du Creusot. Et la jeune fille le vénère. Très inquiète, elle n'a pu trouver le sommeil que très tard dans la nuit grâce à un somnifère que sa mère lui a donné. À 2 jours des vacances de Noël, Marie Pichon décide que sa fille doit aller en cours. Exceptionnellement, elle la dépose en voiture devant le collège. Après une bise rapide et un bref salut, la porte claque. La voiture repart, il est 8h. À midi, Christelle n'est toujours pas rentrée à la maison. Cela fait plus d'une demi-heure que Marie l'attend. Le trajet à pied ne prend pas plus d'un quart d'heure. Pourtant, à 12h20, toujours pas de traces de Christelle. De plus en plus inquiète, Marie appelle sa copine qui confirme que Christelle a bien quitté le collège à 11h et qu'elle ne l'a pas croisée sur le chemin du retour. Pascal, sa sœur aînée, et également sa confidente, promet qu'elle n'est au courant de rien de particulier pouvant justifier son retard. Cette disparition ne ressemble pas du tout à la jeune fille qui prévient toujours en cas de changement de programme. Est-elle passée à l'hôpital voir son grand-père ? Malheureusement, non. Personne ne l'y a vu. Marie Pichon n'attend pas davantage et contacte la gendarmerie. À peine une heure plus tard, Marie-Christine Barnet, 21 ans, descend au pied de l'immeuble pour aller promener son chien. Il fait mauvais temps, il pleut et il y a du vent. Marie-Christine ne traîne pas. Pour raccourcir le trajet du retour, elle décide de passer par le sous-sol du 12 rue des Capucines. Il s'agit d'un chemin connu seulement des résidents de la cité. La pluie s'écrase sur la porte d'entrée, qui claque derrière elle par la force du vent. En voulant fermer son parapluie, Marie-Christine laisse échapper la laisse de son chien alors qu'il tirait dessus. Il est jeune, pas encore dressé, et ne répond pas toujours à la voix. Le voilà qui s'engouffre dans le couloir menant aux caves. Marie-Christine l'appelle, le siffle, celui-ci ne revient pas. Elle part à sa recherche et le retrouve dans le local à vélo. Le chien est en train de renifler une jeune femme allongée sur le sol, inerte. La scène est faiblement éclairée par des hublots qui laissent passer la lumière blafarde de cette triste journée. La jeune femme a la bouche ouverte, mais ne bouge pas et ne répond pas aux appels de Marie-Christine qui n'ose la toucher. Pensant qu'elle a fait un malaise, celle-ci prend son chien dans ses bras et fonce vers son appartement pour appeler les secours qui arrivent rapidement. Marie-Christine redescend dans l'entrée lorsqu'elle entend les sirènes. Malheureusement, à l'arrivée des pompiers, il est déjà trop tard. La victime a reçu plusieurs coups de couteau. En y regardant de plus près, son écharpe est imbibée de sang et comporte plusieurs trous. La police nationale est contactée, ainsi qu'un médecin local. Marie cherche toujours sa fille. Elle erre dans la cité, tourne, interroge les jeunes. Lorsqu'elle voit les voitures de police devant l'entrée voisine, elle les questionne, veut comprendre ce qui agite le quartier. Cherche-t-il sa fille ? Personne ne lui répond, On l'écarte de la scène, lui demandant de rentrer chez elle. Bien sûr, la police fait le lien entre cette découverte macabre et la disparition de la gamine, dont le signalement a fait le tour des ondes officielles. Un regard à l'intérieur du sac de cour, abandonné non loin du corps, ôte rapidement le peu de doute qui subsistait encore. Il va falloir l'annoncer à la famille. Qui se dévoue ? Personne. Trois enquêteurs rejoignent la mère, qui n'est plus qu'angoisse et fébrilité, alors qu'elle s'apprêtait, à garde, à remonter les escaliers. Face à elle, les enquêteurs perdent toute consistance. Aucun d'entre eux n'est capable de la regarder en face. Ses questions fusent, pleuvent, pleurent. Ont-ils retrouvé Christelle ? Est-ce qu'elle va bien ? C'est si grave ? Où est-elle ? Puis le regard de l'un d'eux se lève, croise l'affolement maternel. Marie se tait, comprend. Les policiers n'auront pas prononcé un seul mot. Elle tourne les talons et remonte chez elle. Marie n'est plus qu'absence et douleur. Son existence s'est arrêtée. En arrivant chez elle, elle passe le pas de la porte, se tourne vers le mur et se tape la tête, puis recommence, encore et encore, sous le regard interloqué de Pascal, son aîné. Les policiers tentent de la maîtriser et la ceinture pour qu'elle cesse de se faire du mal. Par chance, Delphine, la plus jeune sœur, est encore à l'école. L'angoisse de Marie Pichon n'aura pas duré très longtemps. En revanche, le vide et la douleur créés par la perte de son enfant, sa quête de justice et de vérité ne fait que commencer. Marie ignore encore l'étendue du combat qu'elle va devoir mener pour confondre le meurtrier. L'un des policiers reste avec elle un moment. Le temps qu'elle se calme, les autres retournent à l'enquête. On lui promet de mettre très vite la main sur l'assassin. Le docteur Guillemin, le légiste de garde, arrive sur les lieux vers 15h. La rigidité cadavérique n'est pas encore présente, mais le corps est froid. L'heure de la mort est estimée entre 11h15 et 14h. Christelle gît dans une flaque qui semble être de l'urine mêlée à un peu de sang, grandement absorbée par son blouson et ses vêtements d'hiver épais. Le corps est parallèle à un vélo posé de manière précaire contre un mur. S'il y avait eu lutte, il aurait été renversé. Les traces des vêtements montrent que le corps a été traîné sur une courte distance par le haut des vêtements, sans doute pour être mis à l'écart des regards. Outre la blessure du couteau, la victime montre des traces de strangulation. Un lacet relativement lâche en serre encore le cou. Après les photos d'usage, le corps est emporté pour autopsie. Les policiers se déploient pour débuter l'enquête de voisinage. Qui a vu quoi ? À quelle heure ? Où ? La cité des Charmilles est constituée de plusieurs bâtiments. Christelle habitait le 11E depuis un an environ avec sa mère, son beau-père et ses deux sœurs. Il y a 8 entrées. Tout le monde se connaît, au moins de vue. Christelle sortait avec un jeune homme de la cité, Michel Barthelot. Toussaint Podgialet est chargé de l'enquête par la police nationale. Il interroge tous ceux qu'il croise. La plupart des gens n'ont rien vu, rien entendu. Monsieur Barnet, le père de la jeune femme qui a découvert le corps, travaillait dans la cave voisine, transformée en atelier, jusque vers 11h avant de remonter chez lui, et n'a pourtant rien remarqué de suspect. Il y a bien Madame Bugot, 71 ans, qui dit avoir vu un couple, une jeune fille et un homme plus âgé, prendre la direction du bâtiment ayant abrité le drame. La jeune fille était-elle Christelle ? Peut-être. À quoi ressemblait l'homme ? Elle n'est pas sûre. Quel âge ? Elle ne sait pas. Bien sûr, il auditionne Michel Barthelot. Christelle et lui se sont rencontrés dans la cité. Le jeune homme est bouleversé. Avec les copains, ils se réunissaient au pied de l'immeuble. Des filles, il n'y en a pas beaucoup. Alors quand les yeux de la rouquine ont croisé les siens, il est tout de suite tombé sous le charme. Quelques semaines plus tard, au cours de l'été 1985, ils étaient ensemble. À l'heure supposée de la mort de Christelle, Michel, en apprentissage restauration, était en cours au lycée professionnel de Dijon. Interne, il ne rentre que le week-end. La famille est entendue le 19 décembre. Marie est effondrée. Après avoir perdu sa fille la veille, l'hôpital vient d'appeler. Son père est mort des suites des blessures dues à son accident. Perdre sa fille et son père en à peine 24 heures. Sa peine est indescriptible. Delphine, la demi-sœur de Christelle née d'une seconde union, est trop jeune pour être interrogée, trop choquée aussi. Christelle était son modèle, son égérie, sa voie tracée, son pont vers l'adolescence. Écroulée. Pascal, la grande sœur, âgée de 18 ans, connaissait tous les amis de Christelle. Elles en avaient même quelques-uns en commun. Elle se disait tout. Pascal ne voit pas qui aurait pu lui faire du mal. Pour Toussaint Poggiale, Christelle a forcément été agressée par quelqu'un qu'elle connaissait. Déjà, la personne qui l'a tuée maîtrisait forcément la disposition des lieux pour venir se cacher à cet endroit. Ensuite, la jeune fille ne se serait pas aventurée dans la cave avec un inconnu. Sur ce point, Pascal est formel. L'entrée de l'immeuble où elle a été retrouvée se situe très exactement à 284 mètres de celui de son domicile. De plus, tout porte à croire qu'elle n'a pas crié avant d'avoir le cou serré par le lacet. L'entourage au grand complet est interrogé, aussi bien au collège que dans la famille. Les connaissances de Christelle se souviennent l'avoir dépassée sur l'avenue Foch entre 11h et 11h20. Rien de concret, mais cela confirme qu'elle était seule et qu'elle n'a pas vraiment traîné en chemin. Dans les jours qui suivent, un appel à témoins est lancé. De retour chez lui, Michel est entendu par la police. Il confie qu'il vient de recevoir une lettre de Christelle, postée le matin même de sa mort. Il est réticent à leur parler, car elle constitue un mobile probable. Michel avait raison de se méfier, la police ne va pas être tendre avec lui, même si son alibi est solide. La lettre raconte une virée de Christelle dans la semaine, le 11 décembre. La jeune fille semble vouloir rendre jaloux son compagnon en évoquant une nouvelle amie avec qui elle aurait séché les cours. « J'ai passé l'après-midi au Régent avec Marilyn Savoie, une copine que tu ne connais pas. J'ai encore le goût de la bière dans la bouche. On est bien quand on est pipeau. Comme j'avais la tête qui tournait, son frère m'a ramené. Après, je ne me souviens plus de rien. Je me suis réveillé dans la chambre de Marilyn. Enfin, tu vois, comme toi, j'ai grandi. » Pascal a mentionné que Christelle savait que Michel l'avait trompée et qu'elle voulait se venger. Qui est Marilyn ? Qui est son frère ? Les fichiers de l'école sont épluchés, les amis interrogés, ainsi que les patrons du bar Le Régent. Personne ne connaît la famille Savoie. Peut-être n'est-elle issue que de l'imagination d'une jeune fille blessée par une infidélité. La piste est donc écartée.